Radio Charladi, en direct du lycée Lebrun à Coutances. Sur le 87.7 FM, sur www.zonedonde.org, de 10h à 16h.
Dans le système judiciaire,
les jeunes de Coutances
sont membres d'une unité d'élite, appelée unité spéciale pour les crimes particulièrement monstrueux. Voici leurs histoires.
Femme. Femme, je suis femme et mon nom est souvent interprété comme un oui. Femme, je suis femme et mon avis ne comptera jamais autant que celui d'un homme. Femme, je suis femme et si je me fais agresser, les policiers me demanderont toujours comment j'étais habillée. Femme, je suis femme et si je porte plainte, dans 80% des cas, ma plainte n'aboutira pas. Femme, je suis femme et mes bleus seront souvent minimisés ou ignorés. Femme, je suis femme et si vos mains ne se tendent pas, ma voix s'éteindra. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour donner une chance à celles qui n'ont jamais été entendues, à celles qui n'ont jamais osé, à celles avec qui on a pris la voix. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour celles qui ont vu leur vie brisée par un système judiciaire qui est loin de les avoir protégées, les ont trahies. Ces voix, ce sont celles de ces femmes victimes de violences conjugales ignorées, celles des survivantes de viols étouffées et réduites au silence. Ce sont ces femmes oubliées, marginalisées, dont les cris de douleur s'éteignent sous le poids d'une justice qui, trop souvent, a préféré fermer les yeux. Écoutez-moi et ne fermez pas les yeux. Défendre cette injustice, c'est comme s'attaquer directement à la justice. Nous devons d'abord commencer par comprendre ce qu'on lui reproche, ne pas baisser les bras et sortir un maximum de femmes de l'ombre et du silence. Toujours garder la tête haute pour trouver de vraies solutions fiables, car si certains hommes ne savent pas se tenir, nous devons redoubler d'efforts pour que chaque femme et chaque fille soient en sécurité. Dans notre société, combien de femmes doivent encore prouver qu'elles sont victimes? Rappelez-vous, 80%, c'est le nombre de dossiers restés classés sans suite, faute de preuves suffisantes, alors que même les traumatismes sont inscrits sur le corps et dans le regard des milliers de femmes qui, chaque année, dénoncent des violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Pourtant, combien voient leurs bourreaux condamnés? Combien voient leurs douleurs niées, sous prétexte qu'elles n'ont pas crié assez fort, pas résisté assez longtemps? En France, les violences faites aux femmes demeurent une tragédie quotidienne. En 2022, 118 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une tous les 3 jours. Ce chiffre s'ajoute à 267 tentatives de féminicide. Près de 240 000 femmes ont rapporté des violences conjugales à la police cette même année, une augmentation de 14% par rapport à 2021. Mais seulement 15% d'entre elles ont déposé plainte. Ce chiffre tombe à 6% pour les violences sexuelles, malgré plus de 217 000 femmes déclarant avoir été victimes de viols, tentatives de viol ou agressions sexuelles. Mais voyez-vous, la réponse judiciaire est loin d'être à la hauteur. Près de 73% des affaires de violences conjugales et 83% des violences sexuelles enregistrées par les parquets sont classées sans suite, souvent faute de preuves suffisantes. Ce ne sont pas seulement des classements sans suite qui sont rendus, ce sont des signaux à chaque femme, victime qui souffre dans le silence. Faute de preuves, me direz-vous. Ces femmes ont été frappées, violées, ces hommes leur ont tout pris, leur pudeur, leur intégrité, leur bonheur, et la justice décide de les laisser sans réponse. La justice, mesdames et messieurs, décide de classer ces actes de la même manière qu'une vulgaire affaire de vélo dérobé. Un vol matériel est donc bien plus grave que le vol du consentement d'une jeune femme. Pouvez-vous y croire? C'est tout bonnement inacceptable. Les témoignages de femmes montrent à quel point le parcours judiciaire peut être traumatisant. Certaines sont obligées de revivre leur agression lors d'interrogatoires ou de confrontations, tandis que d'autres font face à des décisions qui banalisent leur douleur. Comment comprendre que dans une société moderne, moins de 10% des victimes de violences sexuelles osent porter leur cas devant la justice française? Je m'appelle Léa, j'ai 16 ans, et aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une de ces histoires qui m'a bouleversée. Elle n'avait que 15 ans au moment des faits, elle sortait simplement dehors passer les soirées avec ses amis, jusqu'au moment où l'un d'eux a décidé à ses yeux que son nom serait oui. Malgré ses larmes et ses implorations, rien ne fit, il avait décidé ce soir-là que son comportement ne lui importait pas. Après ces événements, les passages dans le commissariat se sont fait récurrents, c'était une habitude. Un mois et demi après son dépôt de plainte, l'affaire a été classée sans suite car on ne peut pas prouver que vous n'étiez pas consentante. Lui, il affirme le contraire. Comprenez sa détresse. Comment à seulement 15 ans, elle aurait pu être consentante avec un homme de 20 ans? Les hommes diront que nous l'avions cherché, que nous étions trop maquillés ou que sais-je encore, car dans tous les cas, ils trouveront toujours quelque chose à nous redire. Trop maquillée, allumeuse, Pas maquillée, je ne prends pas assez soin de moi. Trop habillée, je veux attirer l'attention. Pas assez habillée, je me laisse aller. Habillée court, il ne faudra pas que je m'étonne si je me fais siffler ou habillée trop long, mais je suis trop coincée. Mesdames et messieurs le jury, imaginez une femme, une mère, une sœur, assise seule dans une salle d'attente. Ses mains tremblent tandis qu'elle serre un dossier rempli de preuves, des photos de ses blessures, des messages menaçants, des rapports médicaux détaillant des années de souffrance. Elle est venue ici dans ce tribunal espérant justice, espérant enfin être entendue. Elle a dû affronter ses peurs, ses propres doutes et même les regards accusateurs de ceux qui l'entourent. Pourtant, elle est là. Pas pour se venger, mais pour protéger son avenir et celui de ses enfants. Mais que trouve-t-elle? Le silence. Un dossier classé sans suite, une audience reportée, parfois même des mots qui résonnent comme une trahison. Manque de preuves, faits insuffisamment caractérisés. Et cette femme qui rentre chez elle, seule, elle est brisée, avec cette terrible certitude.
Nous sommes toutes les deux ici devant vous, et vous êtes également là, avec votre classe, car vous n'avez sûrement jamais eu affaire à cet acte de barbarie qui est le mariage forcé. Car oui, aujourd'hui dans le monde, 12 millions de filles mineures sont mariées chaque année, ce qui donne 32 876 par jour, 1370 par heure et 23 par minute. Aujourd'hui dans le monde, une fille sur 5 est mariée avant ses 18 ans. Ce chiffre est en baisse depuis 25 ans, même si à ce rythme, il faudra attendre 300 ans pour éliminer totalement le mariage des enfants.
Et nous ne pouvons pas attendre 300 ans.
Aujourd'hui dans le monde, de nombreuses filles plus jeunes que nous subissent des mariages forcés. Certaines vivent déjà depuis plusieurs années avec un mari dans la plupart des cas bien plus âgé qu'elles, ont des enfants et subissent des violences et des viols constants.
C'est pourquoi nous sommes anxieuses. Ce droit ne sera-t-il jamais obtenu? Nous vous parlons du droit de disposer de son corps.
Mais aussi du droit à l'intégrité physique.
Du droit à la santé physique, à la santé psychique.
Du droit à l'éducation.
Du droit à la vie privée.
Du droit à la liberté ainsi qu'à l'autonomie.
C'est pourquoi nous sommes ici pour nous demander en quoi le mariage forcé est-il inadmissible pour les jeunes filles mineures?
Tout d'abord, malgré une baisse mondiale non négligeable des mariages d'enfants, des filles de plus en plus jeunes continuent d'être unies à des hommes plus âgés, dans des pays où les contextes religieux et traditionnels l'emportent sur la loi. Très récemment, en Irak, un projet visait à autoriser le mariage des jeunes filles, et ceci dès l'âge de 9 ans. Dans ces pays, déjà 28% des filles de moins de 18 ans sont mariées. Imaginez les journées que passent ces adolescentes.
Le mariage forcé est le fait de marier une personne contre sa volonté. Cela touche principalement des filles. Il peut s'agir d'un mariage arrangé par les parents, qui choisissent le mari par tradition ou religion, ou car ils veulent que le mariage se fasse au sein du cercle familial. Mais, par intérêt économique, certaines familles pauvres se voient obligées d'échanger ou de vendre leurs filles à des hommes riches, contre de l'argent, du bétail, des céréales, etc. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous étiez traité comme une marchandise. Car c'est ce que sont les femmes dans certains pays, des monnaies d'échange.
Chaque année, 73 millions d'avortements sont réalisés dans le monde. Sur ces 73 millions, 45% sont réalisés dans des conditions non sécurisées.
39 millions de ces femmes meurent de ces avortements clandestins.
24 pays interdisent l'avortement, même en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la vie de la femme.
Mesdames, messieurs, aujourd'hui nous prenons la parole pour défendre un droit fondamental. Un droit dont l'importance dépasse les frontières, les cultures et les idéologies, le droit à l'avortement. Ce droit, pourtant essentiel à la liberté individuelle, reste sujet à de vifs débats dans le monde entier, y compris dans les pays développés. Prenons l'exemple de la France. Certes, l'avortement est illégal depuis 1975 grâce à la loi Veil. Pourtant, il a fallu attendre février 2024 pour que ce droit soit inscrit dans la Constitution. Cela après des décennies de débats intenses et face à des résistances profondes. Inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution semblait pourtant être une évidence. Comment prétendre garantir la liberté sans protéger le droit des femmes à disposer de leur propre corps? Pourtant, l'histoire récente montre qu'aucun acquis n'est définitif. Et même dans les pays les plus développés, des tentatives de remise en question persistent, souvent soutenues par des idéologies conservatrices ou religieuses.
À travers le monde, la situation est encore plus préoccupante. Dans certains pays, les femmes risquent leur vie pour avorter clandestinement. Dans d'autres, elles sont contraintes de poursuivre des grossesses non désirées au mépris de leur santé physique et mentale. Pourquoi? Parce qu'une société refuse de leur accorder un droit fondamental, celui de choisir.
Ce droit ne fait pas l'unanimité, et pour démontrer cela, nous observons d'abord en quoi ces restrictions sont une atteinte à la liberté individuelle, puis les enjeux pour la santé publique, par la suite les obstacles politiques, et pour finir la nécessité d'étendre et de protéger ce droit. Nous ne plaidons pas ici pour une simple question médicale ou légale. Nous plaidons ici pour une véritable reconnaissance de la liberté et de l'égalité entre les sexes. Nous sommes Margot, Jade et Elodie, Et aujourd'hui, nous prenons la parole en tant que femmes, mais aussi en tant que futures citoyennes du monde qui auront le pouvoir de choisir.
L'un des fondements de la liberté individuelle réside dans le droit de disposer de son propre corps. Refuser aux femmes l'accès à l'avortement, c'est leur refuser cette autonomie. À travers l'histoire, l'appropriation du corps des femmes par des lois patriarcales a servi à les réduire au silence et à la priver de leur humanité.
Encore et encore, leurs corps sont brisés sans leurs accords et cette corrélation entre des corps législatifs et records de souffrance impose une refonte urgente des droits fondamentaux. Ces mots ne sont pas seulement des figures de style, ils traduisent une réalité brutale. Chaque fois qu'un État interdit l'avortement, il s'arroge d'un pouvoir totalitaire sur la vie des femmes, leur santé, leurs choix et même leur avenir.
Prenons un exemple simple. Une femme confrontée à une grossesse non désirée se retrouve face à une décision qui engage son corps et son existence. Forcer une grossesse revient à nier sa capacité à choisir. À cet instant précis, elle n'est plus une citoyenne libre, mais un instrument d'une législation aveugle, dictée par des normes éloignées de sa réalité personnelle.
Elizabeth Wheeler fait partie des 6 femmes ayant porté plainte contre la loi anti-avortement du Texas, SB 8, qui interdit l'avortement après la détection du battement du cœur du fœtus. À 18 semaines de grossesse, elle a perdu son liquide amniotique et a failli développer une septicémie. Elle a été informée par un médecin que ses options étaient de risquer sa vie en continuant la grossesse ou d'opter pour une induction, qui n'est pas légalement un avortement. Elle a finalement dû attendre que sa condition se détériore pour pouvoir avorter, ce qui a été un moment paradoxal de soulagement pour elle et son mari.
Interdire l'avortement ne supprime pas les avortements. Cela les rend clandestins et dangereux. En Asie, en Afrique, en Amérique latine, des millions de femmes risquent leur vie chaque année pour accéder à des procédures non sécurisées, faute de cadre légal. Selon l'OMS, environ 45% des avortements dans le monde sont pratiqués dans des conditions non médicales, entraînant 39 millions de décès annuels et des centaines de milliers de complications graves. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les pays où l'avortement est interdit, le taux de mortalité maternelle est 3 fois plus élevé que ceux dans où il est légal. Ces statistiques ne laissent aucun doute. Limiter l'accès à l'avortement est une atteinte aux droits humains, mais aussi une menace directe pour la vie des femmes et pour la santé publique.
Aux États-Unis, les femmes rencontrent encore plusieurs problématiques, malgré des avancées significatives en matière de droits. Les problématiques touchent divers domaines, allant des droits reproductifs à l'égalité économique et sociale. Et oui, ne vous étonnez pas, les femmes continuent de gagner moins que les hommes avec un écart salarial d'environ 18%. Il est encore plus marqué pour les femmes afro-américaines et latines. Et on ne parle même pas du fait qu'une femme sur 4 aux États-Unis est victime de violences sexuelles ou physiques. Et vous ne savez sûrement pas le pire. Les femmes et les jeunes filles issues de milieux défavorisés ou de minorités se retrouvent souvent ciblées par l'exploitation sexuelle. Vous imaginez, c'est affreux. Et pourquoi les femmes de couleur n'ont-elles pas les mêmes facilités à accéder à des soins de qualité? Ne pensez surtout pas que tout ce blabla n'est que des mots rassemblés. Car oui, les victimes pourraient se révéler et parler. En effet, le 12 avril 2016, Kira Johnson et son mari Charles sont rendus à l'hôpital pour donner naissance à leur deuxième enfant, qui s'appellera Langston. Malheureusement, cet enfant, figurez-vous, ne connaîtra jamais sa mère, celle qui lui a donné la vie. Car le pire dans cette histoire, c'est qu'elle n'a pas survécu justement parce qu'elle était noire.
Elle n'a pas reçu les bons soins à cause de sa couleur de peau. Quel scandale! Les femmes de couleur ne devraient pas craindre pour leur santé, car c'est un droit. Le droit à la santé maternelle, infantile et procréative. Ne parlons même pas du fait que les hommes se sont réunis pour enlever le droit à l'avortement. Des hommes, le genre de personnes qui n'ont pas d'utérus et qui sont encore plus dans l'incapacité de créer un enfant dans leur ventre. Donc, le genre de personne qui ne devrait pas donner son avis sur les femmes, car c'est notre corps et notre choix, car chacun a le droit au respect de son corps. Pourtant, ce sont 5 juges conservateurs de la Cour suprême qui ont voté pour annuler le droit constitutionnel à l'avortement, révoquant ainsi l'arrêt Roe v. Wade qui garantissait ce droit depuis 1973. Mais pourquoi donc ce pays décide de reculer maintenant ce droit que toutes les femmes désirent? Ce droit qui a été mis dans la Constitution en France. Alors qu'est-ce qu'ils attendent? Nous nous demandons. Et car beaucoup de féminicides ont lieu dans le monde, je dédie ce poème à toutes ces battantes qui ont été abîmées puis enterrées. Frauenvorde. La fleur a été entomagée et bouffée, si violemment par ces hommes si violents, une fleur utilisée et souillée, année après année. Cette fleur maltraitée par la vie est en train de faner, elle pourrira et sera jetée, comme un simple déchet, elle finira dans ce compost, comme toutes ces autres fleurs, comme toutes ces autres femmes, et avant d'être jetée, elle criera « féminicide ».
Le droit à l'avortement, tout d'abord, n'est pas seulement une question de santé publique, mais aussi un droit de la femme à disposer librement de son corps. Chaque femme peu importe sa condition sociale, sa situation financière ou son origine, doit pouvoir décider si elle souhaite ou non mener une grossesse à terme. Les raisons pour lesquelles les femmes mettent une grossesse à terme sont multiples, comme les grossesses non désirées, les risques pour la santé de la femme, les conditions socio-économiques difficiles, voire la violence. Ce droit n'est pas là pour inciter les femmes, mais une garantie pour la femme de pouvoir choisir sans se faire culpabiliser ou harceler. La BD Le Choix parle justement d'une enfant non désirée par ses parents, qui se retrouvera sans soutien parental. Cette BD, parue le 30 janvier 2020, écrite par Alain Frappier, est un bon exemple de pourquoi il faut laisser le choix à la femme. Non pas que la femme, mais aussi pour le bien-être d'un enfant. Car garder un enfant que nous ne pouvons pas élever convenablement, garder un enfant alors que nous n'avons pas les moyens financiers ou une santé physique et mentale correcte, est un choix égoïste qui laissera une vie misérable à l'enfant et à la mère.
Marie-Antoinette, 86 ans, tuée par son propre fils. Pouvez-vous imaginer que votre sang ou enfant vous ôte la vie après lui avoir donné ? Louane, 16 ans, tuée sous le coup de son beau-père. Pouvez-vous imaginer que le conjoint de votre parent vous tue alors qu'il n'a aucune raison d'utiliser cet acte ? Car d'après cette personne, la raison était une vengeance envers sa mère suite à une violente dispute. Lorraine, 29 ans, tuée sous le coup de son conjoint. Pouvez-vous imaginer que la personne avec qui normalement vous construirez votre vie vous tue ? Cela est inhumain et horrible. Avez-vous souvent entendu des témoignages similaires cette année ? Si oui, combien sur ces 128 femmes ? Les féminicides sont des actes meurtriers, non évoqués par les médias. Alors que, par exemple, les inondations de juillet 2021 dans le nord de l'Europe, en Belgique, Allemagne et aux Pays-Bas, on fait au moins 116 morts en tout. Ces inondations de juillet 2021 ont fait au total la une des informations pendant au moins 2 mois. Alors que les féminicides ont fait quelques unes médiatiques pendant 3 ans, alors qu'ils ont presque le même nombre de victimes, alors que ce nombre de féminicides est le même pour chaque année, ce chiffre augmente chaque année sur le décompte des féminicides en France.
Bonjour. Je me nomme Thomas Céline et aujourd'hui je vais vous parler d'un problème grave qui existe dans notre société et qui ne devrait pas. La LGBTI-phobie, la discrimination et la haine de toute personne faisant partie de la communauté LGBT, qu'elle soit lesbienne, gay, bi, trans ou intersexe. C'est quelque chose d'impardonnable qui enfreint la liberté humaine du genre et de l'orientation sexuelle. Il est important de rappeler que chaque individu, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, mérite d'être respecté et accepté. L'amour ou l'identité de genre ne devrait jamais être une raison de mettre à l'écart une personne. Pourtant, juste parce qu'ils sont différents, des personnes sont jugées, rejetées, voire victimes de violences et parfois cela va atteindre de leur vie. C'est tout simplement impardonnable. La LGBTI-phobie se manifeste de différentes manières, des insultes, des violences physiques, des discriminations au travail, des moqueries et le harcèlement. Ces comportements ne sont pas sans conséquences. Ils peuvent avoir des effets profonds sur la vie des victimes qui peuvent se sentir isolées, rejetées ou dévalorisées. Certaines en viennent même à douter de leurs propres valeurs ou à souffrir mentalement à cause de l'hostilité qu'elles subissent. L'acceptation de la diversité des genres est un principe fondamental de l'humanité et de respect. Chaque personne a le droit d'aimer qui elle veut et d'être qui elle est, sans avoir à se sentir honteuse ou être rejetée. L'égalité des droits pour tous et toutes, peu importe son orientation sexuelle ou son identité de genre, est un principe de base de la démocratie notamment.
Dans le système judiciaire,
les jeunes de Coutances
sont membres d'une unité d'élite, appelée unité spéciale pour les crimes particulièrement monstrueux. Voici leurs histoires.
Radio Charladi. En direct du lycée Lebrun à Coutances. Sur le 87.7 FM. Sur www.zonedonde.org. De 10h à 16h.